Vos futes excellences en prépa littéraire, avant à 19 ans d'entrer au séminaire, après l'obtention de votre doctorat, arriva le moment où l'on vous ordonna, puis à Saint-Séverin en premier lieu vicaire, nommé depuis 6 ans évêque de Nanterre, vous nous faites ce soir l'honneur de présenter ce qu'est la liberté au cœur de la cité.
On a dit que c'était une tradition d'être là, d'avoir une présentation un peu particulière, mais c'est peut-être la quatrième fois que je prends la parole devant l'État là, mais c'est la première fois que j'ai une si belle présentation. Hein. Alors, je suis très, très heureux d'être avec vous ce soir pour poser quelques réflexions. Je le fais avec voilà, ce qu'est ma vie de prêtre. Un grand bonheur depuis un peu plus de 30 ans. Et dans ma vie de prêtre, j'ai été pendant un temps professeur de théologie, modestement. Je crois que j'ai dû donner un cours au Père d'Orberg, non ?
La grâce.
La grâce, voilà. Et puis j'ai été prêtre en paroisse, j'ai été le curé de l'un d'entre vous, que je suis très heureux de retrouver ce soir ici. J'ai été pendant un temps aumônier des parlementaires. C'était l'étalat de l'Assemblée et du Sénat. Et donc, ça m'a fait pas mal réfléchir sur le rapport à la cité. Et aujourd'hui encore, je suis un peu l'évêque qui garde contact avec les politiques. Donc ça reste une dimension de ma vie d'évêque. Alors, voilà, je propose quelques réflexions hein, très, très modestes. Est-ce qu'on peut fermer la porte ? Et pour ensuite échanger avec vous, comme le format de vos rencontres le suggère. En fait, je crois que c'est vraiment une grâce pour un chrétien, pour une chrétienne, d'être profondément libre. C'est peut-être une des caractéristiques les plus significatives d'un chrétien, d'une chrétienne qui vit du don de Dieu et qui essaye de s'engager en réponse au don reçu. Pour moi, une image de chrétien libre dans la cité, dont d'ailleurs une partie des opinions peuvent tout à fait être contestables et contestées, c'est un écrivain qui m'est cher, qui est Georges Bernanos. Bernanos, un assureur, mais qui est pris par le besoin, le désir d'écrire, qui finira par renoncer à son métier pour vivre de sa plume, assez mal d'ailleurs, mais en essayant quand même d'éduquer ses 6 enfants. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un homme qui a son histoire, son passé. Il grandit dans l'Action française, dans toute une position politique assez raide, un rapport au judaïsme qu'aujourd'hui, on a raison de ne pas trouver acceptable pour un chrétien. Mais en même temps, il y a au fond de lui une telle liberté spirituelle, une telle ouverture à la grâce. Le grand théologien Hans von Balthasar a parlé de Bernanos, chantre de la grâce, que dans sa vie, par sa plume, mais dans sa vie, il va vivre cette liberté d'une manière extraordinaire. Il y a un acte de liberté fort, c'est sa fameuse rupture avec Maurras, parce qu'il l'a trouvé très injuste, en particulier vis-à-vis d'un journaliste qui est une connaissance commune pour l'un et pour l'autre. Et si vous n'avez pas encore lu ce texte, je vous recommande la très très belle lettre d'adieu de Bernanos à Maurras, adieu Maurras, à la douce pitié de Dieu. Et puis après, son œuvre va le conduire toujours un peu au-delà de lui-même, sans entrer dans un conformisme, parce qu'il y a cette flamme intérieure qui le rend libre. Autre élément très important dans sa vie, c'est la guerre d'Espagne. À l'époque, il vit à Majorque. Et sur le papier, il est fait pour être un soutien des franquistes. Mais, ou d'ailleurs, un de ses fils se bat. Mais il est tellement scandalisé par certaines actions militaires, elles ont été atroces et scandaleuses dans tous les sens pendant la guerre d'Espagne, qu'il écrit son très grand livre, peut-être son premier très grand livre de combat, Les Grands Cimetières sous la Lune, qui, malgré le côté très contextualisé, reste une lecture absolument puissante, je trouve. Et vous voyez, il pense un peu contre lui-même, parce qu'il a cette espèce de liberté qui lui vient de la grâce. Et je voulais juste dire ça en introduction, parce que je pense que pour nous tous, en ce temps, c'est important de pouvoir accueillir de Dieu l'appel et le don à cette liberté. D'ailleurs, il a écrit un très beau livre qui s'appelle « La liberté, pourquoi faire ?» à la fin de sa vie. Alors, je voulais proposer trois séries de réflexions. D'abord, sur la foi comme libération. Ensuite, je vois Erwan qui rigole parce que moi, je pense toujours en trois morceaux. Donc, Erwan a subi pendant 5 ans des homilies en 3 points, comme médiocésain. Et donc, vous subirez un exposé en 3 points. C'est un reste quand même d'hypocagne. La foi comme libération. Après, quelques questions sur la liberté religieuse, comme liberté par excellence. Et puis après, la question de ce qui peut fonder une authentique liberté dans la cité contemporaine. Bon, je fais couvrir quelques petits sujets de réflexion, et que vous tous, avec en plus le travail qui est le vôtre, vous avez approfondi déjà, vous approfondirez. D'abord, vraiment reprendre conscience que notre expérience d'être devenu chrétien, de chercher à vivre en chrétien, c'est une expérience de libération. Vous savez bien que Jésus vit sa Pâque dans le contexte de la Pâque juive. Sa mort et sa résurrection viennent transformer le mémorial que les Juifs font de la libération de l'esclavage en Égypte. Et c'est ce qui manifeste que par sa mort et sa résurrection, le Christ vient nous délivrer, vient nous libérer. Non pas de l'esclavage d'un peuple dans un pays, mais de l'esclavage de l'humanité entière à l'égard du péché et de la mort, pour commencer de marcher vers la terre promise de la vie éternelle. Donc l'expérience fondatrice de l'existence chrétienne, c'est une libération. On pourrait donner à cette libération un autre nom, qui est le salut. Et ce mot de salut n'est pas tellement employé, scruté, pris au sérieux par, disons, la majorité des chrétiens aujourd'hui. Je pense que c'est un point très important. L'historien Guillaume Cuchet, qui doit être un ancien de Horesco Reference de Fontenay-Saint-Cloud, enfin maintenant Lyon sans doute, a écrit des livres et des textes dont je partage inégalement les conclusions. Mais dans un bon petit livre de sociologie religieuse qu'il a publié il y a 6-7 ans, sur l'effondrement numérique de la pratique chrétienne en France, il la relie à l'effacement d'une prédication du salut. Et ça me semble extrêmement pertinent. Et j'en ai d'ailleurs fait une sorte de guide pour mon ministère d'évêque. Je pense que beaucoup de nos contemporains, même parmi les chrétiens, même parmi les pratiquants, sont d'accord pour penser que leur relation au Christ leur fait du bien, et donc tant mieux, mais ont du mal à voir que croire en celui qui nous a sauvés par sa mort et sa résurrection, ce n'est pas une question de goût spirituel superficiel, c'est une question de vie ou de mort. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus, dans l'évangile selon saint Jean. Et là, celui qui refusera de croire, alors ça ne veut pas dire que toute personne qui ne croit pas, mais celui qui refuse de croire, eh bien, se condamne. Donc il y a la gravité de la foi qui est exprimée dans cette réalité-là, et qui nous permet aussi de prendre au sérieux la gravité de chacune de nos vies comme aventure singulière dans l'histoire humaine. Vous voyez, vraiment prendre cela au sérieux et être capable de se l'approprier pour en témoigner. Avec mon diocèse, dans le chemin de transformation missionnaire que nous essayons de vivre, j'ai trouvé important, une année, que nous fassions un grand colloque pastoral diocésain où ont participé 5, 6, 700 acteurs de la mission du diocèse, pour essayer de nous réapproprier l'annonce du salut pour aujourd'hui. Non pas en brandissant une peur de l'enfer qui d'abord ne ferait peur à personne aujourd'hui, ou qui ressusciterait un autre type d'annonce de la foi, mais en essayant de comprendre à quelle liberté nous sommes appelés, quelle liberté nous est offerte. Deuxième chose que je voudrais dire dans dans cette première série de réflexions sur la foi comme libération, c'est de regarder à quel point saint Paul fait de la liberté chrétienne vraiment un point focal de tout son enseignement. À la fois en visant la vie éternelle comme la glorieuse liberté des enfants de Dieu, le plein épanouissement de la liberté humaine dans la vie éternelle, ce qui, évidemment, transforme un peu l'approche la plus immédiate à la liberté. Parce que dans la vie éternelle, il sera plus temps de refuser quoi que ce soit. Et donc montre que la liberté de choix est un moment nécessaire de la liberté, mais n'en est pas le tout. La liberté, elle s'épanouit dans le choix accompli d'aimer en réponse à l'amour de Dieu. C'est finalement ça la liberté. La liberté, ce n'est pas la forme, le choix. La liberté, c'est la possibilité d'être pleinement ce à quoi on est appelé. Mais la liberté de choix en est un moment. Mais vous voyez, pour saint Paul, la vie éternelle, c'est la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Et saint Paul, dans le contenu de sa transformation, de son illumination sur le chemin de Damas, il y a la découverte bouleversante et magnifique qui ne le quittera jamais, que l'homme n'est pas sauvé par l'accomplissement de la loi, en se soumettant à la loi, mais par l'accueil de la grâce, de l'amour libérateur de Dieu, offert par la mort et la résurrection du Christ. Et si saint Paul est à ce point l'apôtre de la liberté chrétienne, c'est parce que lui, il a vécu ça très fortement. Alors, ça vaut la peine de s'arrêter un peu à cette question de la loi. Saint Paul, qui est un bretteur, a des passages extrêmement polémiques contre l'idée du salut par les œuvres de la loi. D'ailleurs, dans la controverse entre catholiques et protestants et réformés, au temps de la Réforme, il y a souvent une erreur où on oppose le salut par la foi ou le salut par les œuvres. En fait, la question n'est pas entre la foi et les œuvres, mais entre la foi et les œuvres de la loi. Saint Paul dit on n'est pas sauvé parce qu'on se soumet à une règle extérieure, fût-ce de manière scrupuleuse, comme c'était son cas avant sa rencontre avec le Christ sur le chemin de Damas. C'est l'amour libérateur qui nous fait entrer dans la profondeur et la vérité de la vie. Alors, en même temps, la loi juive, et saint Paul le dit aussi, peut-être de manière moins forte qu'il ne pourrait, parce que son expérience à lui le rend peut-être parfois un peu unilatéral à propos de la loi, mais la loi juive prépare déjà l'entrée dans la grâce. C'est une pédagogie vers la grâce. Et donc, il y a une sorte de dialectique dans la loi pour saint Paul. Elle est à la fois libératrice, parce qu'elle commence à rendre capable d'entrer en communion avec le vrai Dieu par Jésus-Christ, et elle peut être aliénante si on s'imagine que c'est la loi comme telle, coupée de sa source, qui suffit à libérer. Et alors, c'est intéressant, parce que, de manière plus large, y compris pour réfléchir à la loi au sens juridique du terme, dans la cité, on voit que la loi peut être est une condition d'exercice de la liberté, mais elle peut être aussi aliénante. Et donc, entre en jeu, évidemment, la justesse de la loi, et puis la place faite à la conscience, au plus intime de la liberté, pour que la personne puisse se déployer. Saint Paul insiste souvent comme pour montrer comment on entre dans la liberté chrétienne, comment on marche vers la glorieuse liberté des enfants de Dieu, sur les trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Et en fait, ces trois vertus théologales, c'est-à-dire qui viennent de Dieu et qui mènent à lui, sont des expériences de libération. La foi vient nous délivrer de l'aveuglement qui ne nous permet pas de voir ou de pressentir l'amour qui nous précède. La foi nous libère de l'obscurité du cœur. L'espérance nous libère du découragement, voire du désespoir. Ben, Nos aime bien répéter que l'espérance, c'est le désespoir surmonté. Donc c'est le désespoir assumé, parce qu'il est surmonté par la grâce qui nous en libère. Et la charité, eh bien, nous libère de l'enfermement en nous-mêmes, du refus de nous laisser aimer en aimant. Et vous voyez, ces grandes perspectives de la foi, l'espérance et la charité, dans lesquelles on peut retrouver les trois critiques de Kant, hein, la critique de la raison pure, la critique de la raison pratique et la critique de la faculté de juger, qui répond plutôt à la logique de l'espérance, et qui reprend la question de la finalité, mais évidemment avec la part d'enfermement dans le sujet de Kant, qui vient, disons, séculariser ce qui est donné dans la révélation, mais qui en même temps le met en lumière à sa manière, le met en relief en tout cas. Vous voyez, c'est des expériences intérieures de libération par la foi, l'espérance et la charité. Voilà ce que je voulais vous dire pour commencer. Revenir à cela, peut-être que vous l'avez déjà fait dans votre parcours sur la liberté, mais on n'a jamais fini de se laisser libérer par le Seigneur, comme le dit Paul. Donc, la foi comme expérience de salut, de libération, Paul apôtre de la liberté chrétienne, la foi, l'espérance et la charité comme libération de tout ce qui pourrait nous enfermer, nous décourager. Alors maintenant, à partir de là, essayons d'avancer dans le cahier des charges que vous m'avez donné. J'ai parlé de la liberté, mais dans la cité. D'abord, dans la cité terrestre, les chrétiens et les chrétiennes des premières générations sont apparus comme des hommes et des femmes d'une extraordinaire liberté. La liberté qui se donne, qui dans le service, dans l'amour, et puis la liberté qui n'a peur d'aucune contradiction. Et vous savez que la figure du chrétien par excellence, jusqu'au début du IVe siècle, c'est le martyr. Celui qui va jusqu'au don de sa vie pour rester fidèle à la vérité, à l'annonce et à l'amour qui lui ont été confiés, et qui du coup est totalement libre par rapport à aux pressions, aux injonctions de l'entourage, bien sûr par rapport à l'injonction d'adorer l'empereur pour les premiers martyrs à Rome, et puis plus largement cette liberté profonde de ceux qui savent qu'ils ont été une fois pour toutes libérés par le Christ. C'est, je pense, très très important pour nous de nous approprier cela, parce que nous vivons dans un contexte, j'y reviendrai tout à l'heure, de grandes contradictions à l'égard de la foi, qui peut nous durcir, nous raidir. Et en fait, nous avons d'abord à cultiver une espèce de liberté intérieure qui vient de notre relation vivante avec le Seigneur et qui nous délivre qu'à un cas, parce que nous sommes des êtres de chair et de sang, de la peur, et qui nous permet d'aller jusqu'au bout dans la fidélité à celui qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Donc la première figure, en quelque sorte, du citoyen chrétien, c'est le martyr, qui, quand les lois sont justes, est appelé à les observer. On le voit déjà chez saint Paul, on le voit dans des textes que vous connaissez peut-être, le très beau texte qui s'appelle l'Épître à Diognète, qui est un texte vraiment des premiers siècles, qui marque bien la présence, la situation du chrétien dans la cité terrestre. Mais la première figure, c'est le martyr, dans tous les sens du terme, martyr témoin d'abord, et puis éventuellement martyr jusqu'au sang. Et à partir de là, eh bien, apparaît qu'en fait, s'il y a des martyrs, c'est parce que la cité terrestre peut se construire en ne supportant pas cette liberté par excellence qu'est la liberté spirituelle. Et si l'on prend cela au sérieux, je quitte maintenant les commencements du christianisme, on découvre que la liberté religieuse, c'est en fait la liberté par excellence. C'est la fine pointe de la liberté humaine. C'est un thème que le pape Jean-Paul II a beaucoup développé, à une époque évidemment où la moitié de l'Europe vivait dans une oppression constante et violente. Et le philosophe qu'il était a énormément insisté sur cela, et il est constamment revenu durant les enseignements de son pontificat sur le caractère particulièrement décisif de la liberté religieuse. Finalement, le signe qu'une société est une société de liberté, c'est que la liberté religieuse y est respectée. Et voyons bien que cette question de la liberté religieuse, elle est sensible, même à l'école normale supérieure, pour pouvoir avoir votre local de Cala, il faut jouer fin, si j'ai bien compris. Et là, je viens un peu dans la France moderne et contemporaine. C'est assez intéressant de voir que aujourd'hui, il n'y a pas unanimité parmi les tenants de la laïcité française sur la légitimité de la liberté religieuse. Je me souviens, à l'époque où j'étais au milieu parlementaire, d'un débat à l'Assemblée nationale où Jean Glavany, qui a été attaché parlementaire de François Mitterrand et puis ensuite un hiérarque socialiste pendant des années, eh bien, a déclaré que la liberté religieuse était contraire à la laïcité. Et Jean Glavany, avec d'autres élus des Hautes-Pyrénées, le département de Lourdes, a poursuivi le préfet devant le tribunal administratif parce qu'il avait parlé de liberté religieuse. Alors pour eux, n'était légitime que la liberté de conscience, c'est-à-dire une liberté purement intime et intérieure. Quand on parle de liberté religieuse, on parle non seulement de la liberté à l'égard d'ailleurs de laquelle personne ne peut nous contraindre, parce que, on avait vu ça d'ailleurs avec Maxime, quand on étudie le jansénisme, entre les deux formes de liberté, la liberté de contrainte extérieure et la liberté intérieure, mais on ne peut jamais contraindre le cœur de quelqu'un. Mais, cela dit, la liberté religieuse va plus loin, parce que pour les êtres sociaux que nous sommes, s'il y a une liberté humaine, elle doit pouvoir s'exprimer aussi sur le plan social. Et c'est pour ça que la liberté religieuse est plus que la liberté de conscience. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, ce que je dis là ne serait pas reçu par beaucoup de nos contemporains en France. Et il y a vraiment un travail constant à faire pour réaccréditer la liberté religieuse comme une liberté fondamentale. Aujourd'hui, dans notre pays, je le dis avec douceur, mais ce qui est frappant, c'est de voir une certaine inversion des compréhensions de la liberté. La liberté fondamentale, pour beaucoup, c'est la loi Veil. La liberté de mettre fin à une vie qui a commencé à surgir. Je me souviens d'un débat parlementaire où la ministre de la Santé, qui était à l'époque Roselyne Bachelot, disait « Ne dites pas que l'interruption volontaire de grossesse peut être un drame pour une femme. Ce n'est pas un drame, c'est une liberté fondamentale. Et c'est la liberté à l'aune de laquelle toutes les autres, souvent, sont mesurées. » Vous avez vu là, le débat sur le procès Palmade a conduit à reposer la question du statut de l'embryon. Et il y avait eu déjà, dans le cadre d'une loi sécurité routière, il y a 25 ans, un amendement voté puis dévoté parce que, justement, il n'était pas conforme à la liberté de l'avortement. Et Et donc, voilà, c'est incroyable de voir que la liberté fondamentale, aujourd'hui, elle est là. Nous, nous croyons que la liberté fondamentale, c'est pour chacun de pouvoir être libre de ce qu'il y a de plus intime, de plus personnel, et d'une liberté qui puisse s'exprimer. Et c'est la liberté religieuse. Alors, je crois que aujourd'hui, nous avons constamment à lutter paisiblement pour réaccréditer cette liberté. Mais vous voyez, ce n'est pas un combat catégoriel. Dans tous les combats que les chrétiens sont appelés à mener dans la cité, porteurs qu'ils sont d'une vision sur catholique, c'est-à-dire universelle, sur la personne humaine, eh bien, il s'agit de, non pas de défendre notre droit d'aller faire un pèlerinage ou une procession, mais de défendre la liberté de tous nos frères et sœurs en humanité d'aujourd'hui en manifestant que la liberté religieuse est la liberté par excellence. Et donc, c'est très important parce que il y a une tentation pour les catholiques aujourd'hui de se mettre dans une sorte de posture de combat à courte vue qui est plutôt une sorte de conquête ou de reconquête de droits catégoriels, de droits particuliers. Alors nous, comme catholiques, nous sommes toujours appelés à être des hommes et des femmes de l'universel. Mais l'universalité de la liberté humaine s'incarne dans des droits variés dont la liberté religieuse est comme la fine pointe. Alors justement, ça m'amène à ma troisième série de réflexions sur la difficulté à fonder collectivement la liberté aujourd'hui. C'est vraiment la question de notre société de plus en plus déstructurée et violente. C'est qu'est-ce qui nous rassemble, vraiment? Et nous voyons bien que la notion de nature humaine est profondément en crise. Et la crise de la rationalité que nous connaissons conduit à une crise de la liberté. Parce que la liberté n'arrive pas à se penser autrement que comme le droit pour chacun de faire ce qu'il veut au moment où il le veut. Fût-ce en suscitant beaucoup de violence entre les uns et les autres. Donc comment fonder de manière renouvelée, de manière partageable, de manière convaincante, notre liberté dans la cité. Alors, on peut, comme chrétien et plus largement, repérer des tyrannies, en quelque sorte, qui nuisent à la liberté, que l'on peut nommer collectivement. Par exemple, comme l'annonce, par exemple, le roman d'anticipation que vous connaissez bien d'Orwell, 1984, une omniprésence des moyens de contrôle, c'est tout ce qui se passe en Chine, le contrôle facial, tout ce qu'on a vécu aussi avec nos applications pendant le Covid, ce qui a pu se mettre en route avec les Olympiques, et puis le fait, de toute façon, que quand on a un téléphone avec lequel on cherche son chemin, on paye ses transports, etc. On devient une espèce de série de données. Et comme moi, de temps en temps, vous recevez une proposition publicitaire pour un lieu où vous êtes allé trois fois. Et donc, voilà, on voit bien qu'il y a quand même une vraie question aujourd'hui dans, disons, la data, les données personnelles. Donc ça, on peut le dire, on peut repérer les grandes logiques qui peuvent nuire à la liberté la plus profonde. Et on peut aussi, devant des injonctions du politiquement correct, arriver à nommer des modes et nommer des postures, des pétitions de principe, que même dans le cadre d'une crise de la rationalité qui rend un peu sourd à la question de la vérité, permet de susciter un espèce de consensus en vue de la liberté. Mais est-ce que cela est suffisant? Et vous voyez, dans la réflexion sur, disons, le regard des chrétiens sur la société, sur la cité politique, on a beaucoup, beaucoup insisté, et Benoît XVI, qui a énormément écrit et magnifiquement écrit sur le sujet, l'a énormément fait, sur le fait que le rapport des chrétiens à la cité s'inscrivait dans un rapport entre la foi et la raison, et que le domaine de la cité, c'est plus le domaine de la raison. Donc la société politique, c'est le domaine de la raison et pas de la foi de manière immédiate. Certes, la raison a besoin d'être purifiée par la foi, mais finalement, l'action des chrétiens dans la cité passe par un exercice sain de la raison. Et moi, j'ai passé des heures et des heures à faire des conférences sur ce sujet en étant très convaincu. En réalité, il me semble qu'aujourd'hui, on arrive, et d'ailleurs Benoît XVI le disait déjà, je vais y revenir, on arrive à un moment de telle difficulté pour l'humanité contemporaine à trouver suffisamment de repères anthropologiques communs qu'on ne peut pas vraiment en rester là. Benoît XVI, un peu avant de devenir pape, vous le savez, a eu un débat très riche avec Jürgen Habermas, grand maître de l'école de Francfort, sur les fondements prépolitiques de la société humaine. Et alors que Habermas était agnostique, ils sont convenus sur le fait que dans la recherche d'enracinement suffisant pour la vie de la cité, la cité séculière devait pouvoir se mettre à l'écoute des traditions religieuses. Et Benoît XVI a avancé le fait que, finalement, le décalogue, dont vous savez peut-être que saint Thomas d'Aquin y voit la présence dans la Bible de quelque chose qui est de l'ordre de la loi naturelle, eh bien que le décalogue devient une référence à proposer à l'humanité entière. Et donc je pense qu'aujourd'hui, comme chrétiens, et avec les juifs d'ailleurs, dépositaires de la tradition biblique, nous avons quelque chose, à partir de cette tradition-là, à dire à la société qui ne parvient plus par elle-même, en raison de la crise qu'elle connaît de sa capacité rationnelle, à énoncer suffisamment le fondement d'une vie collective, paisible, possible. Voilà pourquoi, pour défendre la liberté authentique aujourd'hui, en tout cas c'est une hypothèse, une proposition que je vous fais, je crois que nous avons à réfléchir la liberté à partir de la liberté révélée, telle que saint Paul en synthétise l'expérience, enraciné qu'il est, malgré la critique qu'il fait d'un certain usage de la loi juive, dans la tradition juive, et libéré qu'il a été par le Christ en qui l'homme est pleinement révélé à lui-même. Et dans ma vie d'évêque, j'essaie de le mettre en œuvre. Actuellement, nous sommes engagés sur le débat sur la fin de vie. Il faut même lutter pour que la liberté d'avoir des opinions divergentes sur ce point soit possible. Hein, dans le projet de loi tel qu'il a été travaillé avant la dissolution, a été ajouté avec l'accord du gouvernement un amendement sur le délit d'entrave, où pourrait être passible de poursuites pénales quelqu'un qui non seulement dissuaderait une personne voulant avoir recours à l'euthanasie d'y avoir recours, mais même diffuserait des positions prétendument erronées au sujet de la mort provoquée. Un grand conseiller d'État qui avait écrit contre le projet de loi me disait « Si cet amendement était voté, je serais passible des peines pénales. » Alors, il se trouve que moi, je suis engagé sur ce sujet, et un des trois évêques chargés d'être un peu porte-parole sur le sujet. Bien sûr, très souvent, nous avons à revenir tout simplement à l'impératif social de respecter la vie et défendre la liberté pour un médecin, par exemple, de ne pas, si cette loi était votée, de ne pas avoir à la mettre en œuvre, etc. Mais on se rend bien compte que finalement, la notion de l'anthropologie est devenue si fragile que nous avons aussi à faire entendre comme telle le dépôt biblique. Et c'est ce qui m'a conduit à faire un texte commun avec un rabbin pour faire entendre ensemble le caractère fondateur pour la société d'une « tu ne tueras pas » biblique. Et parce que, en un sens, une loi sur la fin de vie, ce serait faire entrer dans la loi la possibilité de donner la mort, alors que le point de départ de la vie en société, c'est précisément le respect de la vie de tous. Voilà donc ce que je voulais vous dire pour cette troisième série de réflexions. Dans la cité contemporaine, nous avons, pour être pleinement des témoins de la liberté, à en défendre la dimension anthropologique naturelle, mais nous ne pouvons pas, en fait, ne pas nous sentir dépositaires de la tradition biblique et appelés à donner cette lumière dont le monde en mal de salut a besoin pour pouvoir continuer d'avancer sur un chemin de vie. Je voudrais conclure, avant de pouvoir échanger, en mettant sur un autre registre, mais qui me semble vraiment important aussi, qui est celui de la vie spirituelle. Bernanos a cette formule dans La France contre les robots, qui est souvent répétée. Il dit qu'on ne comprend rien au monde moderne si on n'a pas compris que c'est une immense conspiration contre toute forme de vie intérieure. Mais d'ailleurs, il continue, dans La France contre les robots, on ne cite jamais la suite, « Imbécile, vous avez cette liberté en vous. » Alors, Bernanos a employé volontiers le mot « imbécile », mais donc il n'est pas dans la résignation, il est dans une invitation à vivre de la vie spirituelle. Et vous voyez, je crois que c'est vraiment la base pour chacun d'entre nous de cultiver cette liberté personnelle par une véritable vie spirituelle. Déjà, le combat quotidien pour prendre le temps de la prière, c'est une manière d'être libre par rapport à la tyrannie du temps qui passe et des activités face auxquelles nous demeurons passifs. L'acte de liberté par excellence, c'est de faire un arrêt dans le cours de nos activités pour nous mettre silencieusement en présence du Seigneur. Le chef d'entreprise chrétien remarquable qui fait la revue Magnificat me disait un jour devant un groupe de jeunes chrétiens de la haute fonction publique que j'avais réuni pour lui, qu'il s'était dit un jour que sa première mission, ce serait de contribuer à ce qu'il y ait des hommes et des femmes libres selon le Christ, parce qu'ils prendraient un vrai temps de prière quotidien. Et donc mettre dans leurs mains un instrument qui aidait à la prière, ce serait sa manière d'influer sur la cité. Et je trouve que c'est très, très beau, très juste et très stimulant. Il y a un très beau livre qui a été publié dans les années 70 que je vous recommande, qui s'appelle « L'oraison, problème politique ». C'est un livre du jésuite devenu cardinal Jean Danielou, qui était un patrologue spécialisé par l'Église extraordinaire, et qui a été pendant des années la moitié du père Derberg, puisqu'il était aumônier de Sèvres, à l'époque, mademoiselle, où il y avait les garçons à Ulm et les filles à Sèvres. Mais ce qui permettait quand même des mariages, je rassure certains d'entre vous, puisque le grand journaliste Jacques Julliard devrait être lu les Orioles il y a encore 2-3 ans, et je célébrais les obsèques à Bourg-la-Reine d'ailleurs, il y a un an. Et il a réalisé dans Marianne, dans le Nouvel Obs, dans le Figaro aussi, mais c'était un vrai chrétien très profond. Sa femme était normalienne aussi. Ils avaient été mariés par le cardinal Danielou. Elle était sévrienne, il était ulmien, et ils s'étaient rencontrés. Et alors, Danielou écrit ce livre, L'oraison, problème politique, en montrant que la question de la prière, alors au sens un peu plus large que l'oraison mentale, vous voyez, mais que la prière est une question essentielle dans la cité. Parce que la possibilité de la prière, la liberté religieuse, tout ce qui va avec, eh bien, c'est ce qui permet que la cité puisse se construire dans le respect et dans la paix. Et il le publie dans les années 70, 75. Vous voyez, donc on est dans une période où, comme il en revient régulièrement, l'Église, on est juste après 68, doute totalement de sa légitimité, finalement, avoir une pertinence, une présence, une action, une insertion dans la société politique. Et il écrit ce livre qui a été un moment de bascule dans une forme de redémarrage dans ces années-là, sur le fait que l'oraison... Alors, il dit problème politique, je dirais plutôt peut-être l'oraison grâce politique. Et donc, pour être libre dans la cité, je vous encourage vraiment à, bien sûr, à réfléchir, à être libre dans votre parole et dans vos choix, mais pour cela, à cultiver vraiment la profondeur de la vie spirituelle. Voilà, merci de votre aimable attention et volontiers, j'entendrai vos questions, voire vos objections, voire vos réflexions.
Oui, merci beaucoup, Monseigneur, c'était vraiment très intéressant. Alors, moi, j'avais une question sur justement la distinction que vous faisiez entre droit et liberté, et comment, en fait, on peut ménager, enfin, parce que j'ai l'impression que c'est quand même difficile de tenir à la fois la liberté de l'acte de foi et de l'adhésion religieuse, et en même temps le fait que la foi, enfin, et surtout la foi catholique surtout, est plus qu'une opinion parmi d'autres dans un système un peu libéral, mais quand même la seule vérité. Et comment est-ce qu'on fait pour... comment on articule les deux, quoi? C'est-à-dire que c'est à la fois quelque chose qui relève de l'ordre de la liberté personnelle, de la liberté de conscience aussi, et en même temps qui n'est pas qu'une opinion parmi d'autres.
Ouais, c'est une très bonne question. Hein. C'est toute la question de la liberté religieuse, telle qu'elle a été réfléchie à Vatican II en particulier, et enseignée, et parfois discutée depuis. En fait, la liberté est constitutive de la foi. C'est-à-dire qu'il ne peut pas, la foi ne peut pas advenir à elle-même en dehors d'un acte de liberté. Mais c'est tout le sens de ce que j'ai dit sur le salut. Ce n'est pas un acte de liberté anodin ou facultatif. En fait, c'est la question du sens qu'on donne profondément à son existence et est-ce qu'on choisit, pour prendre la thénatise du livre de Deutéronome, la vie ou la mort. Alors, on n'a pas toujours conscience d'être face à ce choix. Et il peut prendre des figures variées suivant si on a été rejoint ou non par une prédication suffisante et suffisamment convaincante de l'Évangile. Mais le paradoxe de la foi, c'est que, en un sens, c'est un acte nécessaire pour entrer dans la vie, mais c'est un acte qui ne peut être que profondément libre. Mais pour comprendre cela, il faut comprendre que la liberté a besoin du temps de la liberté de choix, mais qu'elle n'est pas que cela. Qu'on ne renonce pas à la liberté de croire une fois qu'on a fait le choix de répondre à la révélation par la foi. Au contraire, on épanouit sa liberté de croire parce que la liberté, c'est profondément de pouvoir faire le mieux de manière durable. Mais la liberté de choix est un moment constitutif. Donc vous voyez, c'est ce paradoxe. Et c'est là où une sorte de méfiance vis-à-vis de la liberté au nom de la vérité de la révélation passe à côté de cette vérité. Parce que c'est à un homme libre que Dieu a voulu se révéler.
Ah oui, d'accord.
Merci beaucoup pour cette présentation. Vous avez évoqué la controverse entre Habermas et Ratzinger sur le renouvellement des présupposés du droit positif séculier qu'ils avaient eu. Et dans mes souvenirs, en fait, ni l'un ni l'autre ne parvient à une réponse satisfaisante à ce problème qui est un problème antérieur encore à cette controverse. Et est-ce que vous avez parlé de la proposition de réponse du décalogue, mais est-ce que finalement il n'est pas illusoire et impossible d'avoir des garanties politiques à la liberté?
Alors, il s'agit quand même de chercher le moyen de vivre ensemble de la manière la moins injuste et la moins violente qui soit. Et c'est très intéressant de voir que Benoît XVI, qui est plutôt un professeur de théologie dogmatique, a déployé une très abondante théologie politique. Et je pense parce que il est un Allemand qui parvient à la maturité dans l'immédiate après-guerre et qui est taraudé par la question de l'avènement du nazisme dans un pays chrétien. Et du coup, c'est une interrogation qui l'accompagne constamment et qui l'a cultivé à sa manière de chercheur en l'enrichissant constamment jusqu'à la fin de sa vie dans tous ses enseignements. Ce que Benoît XVI commence par écarter, et c'est important même pour les chrétiens, parce qu'il insiste sur la purification réciproque de la foi et de la raison, ce qu'il écarte, c'est tous les messianismes temporels. Et il dit par exemple, dans une conférence qu'il a faite à Berlin, que rien n'est plus étranger au christianisme que le messianisme eschatologico-révolutionnaire. C'est-à-dire que l'idée que par un groupe ou une personne, on puisse par la révolution faire advenir le ciel sur terre. Dans les grandes utopies meurtrières du XXe siècle, le nazisme, le communisme, de manière très explicite avec dans une partie de la théorie marxiste, et puis les Khmer Rouges, etc., c'est de vouloir faire le paradis sur terre et donc de ne parvenir qu'à y faire l'enfer. Au nom de régimes qui s'érigent en modèle. Donc il y a une espèce de sortir de l'histoire comme lieu d'avènement politique absolutisant. Et puis à partir de là, toutes les interrogations sur la manière dont la raison permet de contribuer à limiter la violence et l'injustice. Un autre point. C'est, et c'était très important vis-à-vis des chrétiens, s'imaginant un peu la collusion entre le mouvement révolutionnaire et la foi, que la foi n'est pas l'instrument de l'avènement du royaume de Dieu. La politique n'est pas l'instrument de l'avènement du royaume de Dieu. Et il dit, la politique, c'est le service du royaume des hommes pour qu'ils vivent dans une justice et une paix suffisantes pour que les personnes puissent déployer le meilleur de leur liberté. Définition du bien commun. Et donc voilà, il y a aussi cette modestie de la vision du politique qui permet d'établir les choses. Et puis après, par exemple, dans son grand discours devant le Parlement, les deux chambres réunies à Berlin, également à Westminster, il y a toute réflexion sur les fondements du droit, toute la question du rapport entre le positivisme juridique et le droit naturel, qui est aujourd'hui un concept en crise, et qui pourtant est un concept nécessaire. Donc vous voyez, c'est tout ça progressivement qui met en place. Avec aussi un point qui est très important, parce que c'est un lieu commun qu'on voit très souvent dans les débats en France, où nous sommes, nous les chrétiens, de dire si nous mettons la loi civile ou la loi religieuse à la première place. Et en fait, c'est une question qui est très mal posée, parce qu'il n'y a jamais eu de loi religieuse organisant le détail de la vie civile du point de vue des chrétiens. C'est un thème que Benoît XVI a beaucoup développé. Mais donc, la loi religieuse n'est pas une loi au sens de la loi du code civil ou du code pénal. C'est la loi religieuse, c'est la parole de Dieu, nous savons bien, dans le Premier Testament et dans son accomplissement dans le Nouveau. Donc, vous voyez, il y a toute cette construction très complexe, mais pas au sens compliqué, mais qui permet d'approfondir les choses, où il y a des visions erronées que l'on peut nommer et contribuer à éviter. Et après, il y a un travail constamment à reprendre de dialectique entre le droit positif et le droit naturel, en quelque sorte, qui permet que la dignité humaine soit honorée et que, le moins mal possible, l'injustice et la violence soient jugulées. Et de fait, à aucun moment, Benoît XVI ne prétendra donner une solution. Mais c'est une dialectique, en fait, du droit naturel et du droit positif, qui n'est pas le positivisme juridique, et aussi une dialectique de la foi et de la raison qu'il s'agit de mettre en œuvre. Donc finalement, c'est plus une sorte de processus que de données déterminées qui est question.
J'ai d'abord une question sur la liberté religieuse qui m'est venue quand vous disiez à l'instant que pour un chrétien, la question du choix entre liberté civile et liberté religieuse ne se posait pas.
J'ai pas dit ça exactement.
Enfin, ne se posait pas au sens où il y aurait une concurrence parce que la liberté religieuse organiserait les détails de la vie humaine et politique. Je me demandais dans quelle mesure est-ce que le fait de se battre pour la liberté religieuse, dans un sens donc non pas catégoriel mais vraiment universel, peut être ennuyé dans la mesure où, par liberté religieuse, nous chrétiens on entend quelque chose de précis que d'autres religions ne possèdent pas nécessairement. Il y aurait comme un risque de viser à une liberté qui, pour certaines personnes qui ne sont pas chrétiennes, veut dire tout autre chose et peut même se traduire par des phénomènes qui sont contraires à la liberté, qui nient cette liberté que nous pouvons porter. Je me demandais dans quelle mesure.
Oui, c'est une question très intéressante et très subtile. Alors d'abord, je disais tout à l'heure que la liberté religieuse ne se résout pas à la liberté de conscience, mais en même temps, c'est très important de dire que la liberté de conscience est la première condition de la liberté religieuse. Et quand je dis que pour nous chrétiens, il n'y a pas de concurrence entre loi civile et loi religieuse, je ne dis pas pour autant que nous sommes tenus d'obéir à toutes les lois civiles. Il y a au-dessus, plus profond que l'obéissance à la loi civile, la notion de conscience. Et c'est très intéressant de voir qu'un système juridique sain assume cela. Que ce soit, par exemple, le fait qu'on puisse inscrire dans la loi l'objection de conscience à la loi. Et c'est un des combats que nous avons sur la question de la fin de vie. C'est que les médecins, mais aussi les soignants, les infirmières, etc., puissent exercer une objection de conscience. Et on réfléchit aussi à la possibilité de mettre en forme juridique une sorte d'objection de conscience institutionnelle pour des EHPAD ou des hôpitaux qui mettraient dans leur charte qu'eux ne pratiqueront pas la mort provoquée. C'est un point sur lequel on n'est pas arrivé, en tout cas pour l'instant, d'avoir d'accord avec le gouvernement. Et c'est intéressant aussi de voir, par exemple, que des préfets qui, sur ordre, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont contribué à des déportations de juifs, ont été condamnés. Parce que, en fait, ils auraient dû obéir à leur conscience et pas à un cadre réglementaire, voire légal, avec les lois anti-juives de Vichy, au moment où ils étaient en poste. Donc, voilà, c'est important de voir que la liberté de conscience, elle est incluse dans la juste compréhension de la liberté religieuse. Alors, j'entends bien ce que vous dire, que très concrètement, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, le sens chrétien de la liberté religieuse doit nous conduire à nous battre pour qu'on puisse construire des mosquées pour n'importe quelle catégorie musulman? Est-ce qu'on contribue à la liberté en permettant que des communautés salafistes, par exemple, aient des lieux de culte, au nom de la liberté religieuse? Et c'est là où je pense qu'on a toujours à prendre les choses de manière non pas simpliste ou moniste, mais toujours c'est dans une forme de dialectique. C'est que la liberté religieuse et la liberté de conscience marchent ensemble, et que même si la conscience est l'instance décisive par rapport à la loi civile, c'est dans le cadre d'un système civil qui respecte la dignité de la personne humaine que toute autre liberté peut être exercée de manière juste. Et donc la liberté religieuse ne peut pas être simplement une auto-affirmation de liberté cultuelle, disons, mais elle doit s'inscrire dans un cadre éthique de respect de la dignité de la personne humaine. Mais à partir du moment où il est garanti, il n'y a pas de raison de ne pas permettre à la variété des confessions d'exercer leur culte. Vous voyez, c'est un équilibre assez subtil, et en fait, la République française a un peu de mal avec la subtilité en matière religieuse, et parce que au fond, la République reste marquée de manière un peu exclusive par le cadre napoléonien. Et donc, s'imagine que toute religion, c'est comme l'Église catholique, avec des simagrées extérieures un peu différentes. Et a du mal à comprendre que toute religion, toutes les religions ne sont pas religions exactement de la même manière. Que le mot religion, et ça vient aussi nuancer ce que je dis sur la liberté religieuse, le mot religion est un mot trop générique pour dire de façon suffisamment riche tout ce que portent les différentes traditions religieuses. Donc voilà, vous avez votre question est très intéressante pour nuancer un peu les choses. Mais en tout cas, en conclusion de ma modeste réponse, je crois qu'il faut donc bien penser ensemble liberté de conscience et liberté religieuse, et inscrire la liberté religieuse dans un cadre global de respect de la dignité de la personne humaine. Quand ce cadre est présent, la diversité religieuse doit pouvoir trouver moyen de s'exprimer de manière ajustée. Erwan.
Merci, monseigneur. Je reviens sur quelque chose que vous avez dit à la toute fin de votre intervention. Vous parliez d'un groupe de fonctionnaires que vous aviez réunis pour le directeur de Magnificat. On voit assez bien ce que c'est que la liberté chrétienne du politique dans ses prises de fonction, dans ses prises de parole publique, dans les décisions qu'il essaie de mettre en œuvre, celle du journaliste aussi assez bien. Enfin, qu'est-ce que ce serait la liberté chrétienne du haut fonctionnaire et quel serait son rayonnement? Je reviens sur des choses beaucoup plus terre à terre. Enfin, quand on est vraiment dans une hiérarchie, alors il y a le cas de du préfet sous Vichy où on imagine ce genre de choses, mais dans un cas moins extrême, quoique moins urgent, comment va s'affirmer la liberté de quelqu'un qui est un peu au cœur d'une grosse machine qu'est l'administration?
En fait, je pense que dans toutes les situations humaines, recevoir du Seigneur une vraie liberté, c'est même vrai comme évêque, dans l'organisation ecclésiastique, à tous les degrés de la vie, pouvoir être un homme, une femme vraiment libre par rapport à ses propres passions, par rapport à ses ambitions, par rapport aux pressions, eh bien, c'est quelque chose de très important. Je pense à un petit déjeuner de prière que j'ai régulièrement avec un certain nombre de décideurs et un haut fonctionnaire, pourtant qui s'occupe de tout autre chose que de questions médicales. Et lui, la perspective de voir une loi sur la fin de vie être votée alors qu'il a un des postes essentiels de l'État, lui est insupportable. Et donc sa liberté intérieure est telle que je dis de prendre le temps, de voir où on allait aller, que le vote n'était pas pour l'instant inéluctable, mais que sans doute il quitterait, c'est son choix à lui, hein, c'est son discernement à lui, il quitterait la fonction publique si une telle loi était votée. Donc tu vois, ça conduit quand même quelque chose d'assez profond, assez lourd. Mais après, il y a plein d'occasions dans la vie publique en général de refuser telle compromission, de refuser tel mensonge. Vous voyez, par exemple, je sais pas, le fond des choses sur le débat actuel sur l'ampleur du déficit public, mais il y a eu sans doute certains qui ont préparé des rapports en disant que le rapport allait plus plaire à l'autorité s'il était enjolivé, enfin des choses comme ça. Bon, d'être vraiment des hommes et des femmes de vérité, ça ne va pas de soi. Et on a besoin d'une santé spirituelle, une liberté spirituelle nourrie pour pouvoir vivre cela. Si vous avez compris, ces applaudissements très sympathiques, c'est les cloches qui annoncent qu'on prie, c'est ça? Ou est-ce qu'il y a encore un petit poème pour terminer?
Non, j'ai pas parlé du poème final, mais nous vous remercions beaucoup, Monseigneur Bouget. Donc, effectivement, nous allons prier le conflit avec vous.